C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, bonne semaine à tous, belle température, on est toujours en compagnie d'Alain Mécana. Salut Alain.
Bonjour.
On peut plus parler de l'été des Indiens, paraît que ça se dit plus, peux-tu parler de l'été des peuples autochtones?
Il y a une loi, faut trouver l'expression.
L'été des Premières Nations.
Quoi qu'on est dedans, là, ça a gelé dans les dernières nuits, puis
oui,
il fait beau.
Ben, techniquement, quand il fait 14 degrés au mois de novembre, on peut considérer qu'il fait assez beau, merci. Mais bon, profitez-en parce qu'à un moment donné, l'hiver va finir par arriver.
Ah oui.
Mais je vous en souhaite quand même une bonne semaine. Alain, on va évidemment parler dans quelques instants de nos actualités. On en a des pas pires cette semaine.
Grosse semaine.
Mm-hmm. On va parler... Tiens-toi, t'as essayé la Honda Civic Type R
petite
avant qu'elle parte.
On appelait ça avant ça des Pocket Rockets, puis là, après ça, il y a eu les sports compacts, puis là, c'est rendu, c'est quoi, c'est plus des compacts,
le
Civic?
Ben, en fait, le Rocket est encore bon, c'est plus vraiment un Pocket Rocket, parce que...
C'était Civic Type R, une Civic de 300 chevaux, juste pour donner une idée, j'ai conduit ça cette semaine, justement, parce que...
Et pour ceux de mon âge, on parle pas d'Henri Richard. Ah!
Oh,
le Pocket Rocket.
Oh!
Okay,
un lien. Non, mais voilà. Cela dit, parlant de reconstruction, hein, avec le Canadien, on peut faire le lien presque.
Oui.
Honda est en train de revoir sa Civic. Évidemment, on a vu la 2022. Il y a une Civic SI qui s'en vient, qui est un petit peu
inspirée. On a vu les images. La semaine passée, ils ont sorti les images. Ils ont même sorti le prix. Ça va commencer à 35 000 $.
C'est pas un cadeau. Puis je pense qu'il y a une Type R en 2023 au programme. Donc, on a essayé le modèle actuel pour pouvoir prévoir ce que va être le modèle suivant.
Pour garder tes notes pour le prochain.
Exact.
Moi, je suis allé au lancement de la Toyota Corolla Cross.
Oui, qui est un VUS, en fait.
Qui est un VUS.
Ouais.
En fait, pensez à une Matrix en plus gros, sauce 2021, mais on est assez proche, en fait, puis je pense que c'est volontaire. Là, on a donné le nom de Corolla parce que Corolla est synonyme de produit fiable, de produit qui est là depuis, mon Dieu, 1966. Donc, on va amener ce produit-là. Je vais vous en parler tantôt.
Ben oui.
Je peux juste vous dire que ça va se vendre, mais je vous donnerai les raisons.
Okay.
C'est peut-être pas celle que vous attendez. Et comme invité, on va avoir Jocelyn Fecteau, qui est de Kijiji Auto, qui va venir nous parler, en fait, d'une nouvelle entente entre Kijiji et Cox Automotive, qui est un géant des concessions automobiles au Canada. Je vous en dis pas plus, nouvelle façon de vendre via l'Internet.
Mm-hmm.
On va en parler plus en détail avec M. Fecteau tantôt. Tiens, parle-nous donc de tes nouvelles de la semaine. J'aime bien ta première, moi.
Oui, ben ceux qui suivent un peu la politique américaine savent qu'il y a eu un gros plan budgétaire qui a été adopté là, par les deux chambres du gouvernement américain dans les derniers jours. Un plan proposé par le président Joe Biden. Et il y a des parties de ce plan-là qui touchent à l'auto électrique et qui pourraient avoir des répercussions jusque chez nous. C'est une bonne nouvelle dans la plupart des cas. Là. Évidemment, ce nouveau plan-là, et là, je vous épargne les détails, mais il y a comme deux volets. Il y a le plan économique, mettons ça en guillemets, qui a été adopté cette semaine. Il y a un plan plus environnemental qui comprend des crédits pour la construction de voitures électriques aux États-Unis. Ça va être discuté dans les prochaines semaines aux États-Unis. Ça ne nous affecte pas. Selon dont on parle en ce moment, c'est des petites mesures plus axées sur... l'infrastructure, des choses comme ça.
Mais les bornes de recharge, entre autres, il y a un montant assez substantiel qui va aller de ce côté-là.
Exactement. Ce sont 7,5 milliards de dollars américains. Je pense que ça doit être équivalent à 10 milliards de dollars canadiens.
On est autour de ça. Là.
Qui vont aller exclusivement à la construction d'un réseau américain de bornes publiques de recharge électrique. L'objectif du président Biden est d'installer 500 000 bornes d'un océan à l'autre en bordure des grands axes routiers, les principales autoroutes qui, évidemment, sillonnent les États-Unis.
Les interstate, comme on les appelle.
Exactement. Ouais. Donc, les propriétaires d'un véhicule électrique, même québécois, là, qui vont vouloir visiter les États-Unis parce qu'on le peut depuis cette semaine, on peut retourner
depuis
plus facilement.
Le 8, donc, depuis le 8 au matin, mais je vous conseille peut-être d'attendre 2-3 jours avant de vouloir partir pour les États-Unis, parce qu'il y a un petit peu
deux heures de
lousse. Aux
non, effectivement. Bref, les gens qui voudront traverser la frontière pourront le faire avec une voiture électrique, avec l'esprit plus tranquille, mais pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines années, quand ça sera déployé. C'est un investissement qui risque d'être profitable pour le Québec, étant donné qu'on compte sur des fabricants de composants et de véhicules électriques qui seront vendus aux États-Unis. Je pense entre autres à Add Energy, qui est le troisième plus important fabricant de bornes en Amérique du Nord. Fait que c'est quand même un joueur important qui va en bénéficier.
Alors, c'est sûr que quand on frôle les 10 milliards d'investissements, là, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont être capables d'aller piger dans l'assiette.
Non, exact. Et pour une fraction, même un pourcentage mince de la tarte, ça reste un gros morceau de gâteau. Je fais un péronisme, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est un gâteau riche.
Exactement. Puis on peut imaginer aussi que les constructeurs comme Lion Électrique, qui fait des autobus et des véhicules commerciaux, vont profiter indirectement de la mesure. Ça va stimuler l'infrastructure et aussi la vente de véhicules. De façon plus générale, il y a aussi trois directives adressées au département américain du transport qui vont changer la façon dont les véhicules sont construits et ils sont conduits. La première va forcer l'installation d'un dispositif qui va éteindre le moteur des véhicules qui ont un démarreur à distance après un certain temps pour éviter qu'ils polluent, qu'ils consomment trop et inutilement.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée.
Ben, ce serait la moindre des
choses.
Surtout
quand on parle des pick-up qui sont en quantité industrielle aux États-Unis.
Beaucoup de gens aiment attendre dans le stationnement leur enfant qui revient du sport en laissant le moteur tourner pendant une demi-heure et c'est à déconseiller. Là, oui, ça va peut-être être obligé. Faut y penser. Le gouvernement veut aussi rehausser des normes touchant les phares des véhicules neufs pour éviter, entre autres, les dérapages dans l'intégration des DEL. Il y a beaucoup de design qui se fait avec la lumière là, sur les véhicules plus récents. Puis, en tout cas, il y a certainement de l'audace et du bon goût, mais il doit y avoir aussi des exagérations qu'on veut éviter. La troisième directive vise à obliger les constructeurs à équiper leurs véhicules d'une technologie qui détectera et empêchera la conduite avec faculté affaiblie, que ce soit en raison d'une trop grande consommation d'alcool ou de drogue. Ça, c'est une très bonne mesure.
Oui.
On peut le faire sans avoir un alcotest branché dans l'allumage. Là. C'est une question souvent de caméra et de suivi du mouvement des yeux, des choses comme ça qui permettent de détecter « Oups, cette personne-là est soit... »
Oui, puis ça existe déjà comme technologie. Alors,
exactement.
Il y a beaucoup de constructeurs qui... Bon, souvent, c'est une option, là, mais je regarde entre autres du côté des Coréens dans certains modèles plus luxueux, chez Genesis, entre autres.
Ouais.
On l'a même chez Hyundai dans certains modèles, on l'a chez Mercedes. Donc, ça existe.
Exactement.
Il s'agit de voir comment on peut généraliser la chose.
Les symptômes observés, généralement, sont à peu près les mêmes que ceux provoqués par une fatigue extrême. Donc, ça va avoir du bon en général parce que ça va détecter surtout de l'inattention. Ce qui va être forcé par la loi, obligatoire par la loi et plus optionnel, ça reste à voir. Mais quand même, le bénéfice, ça va être que les gens vont être plus alertes au volant.
Et moi, j'avais essayé sur une Kia. En fait, c'était pas installé sur un modèle de série. On avait essayé ça sur un circuit, mais on feignait de littéralement de s'endormir.
Mm-hmm.
Et la voiture ralentissait et se stationnait sur le bas-côté d'elle-même.
Ouais.
Alors, en évitant, puis on avait fait exprès, là, on avait mis, du trafic, c'est-à-dire qu'on avait mis des autos de chaque côté de la voiture que j'occupais, et on laisse tasser toutes les fonctions d'aide à la conduite électronique entrent en jeu.
Mm-hmm.
Mazda est en train de développer un véhicule comme ça. On dit que dès 2022 au Japon, dans les Mazda, certaines Mazda, il va y avoir ça d'inclus dans la voiture.
Ben voilà.
Et c'est un élément de sécurité qu'on va amener. Bon,
c'est
bon quand on s'endort, mais ça peut aussi être bon quand on est sous.
Ben, c'est ça, exact.
Puis parce que les symptômes, tu sais, quand on est chaud, on ferme un peu les yeux.
Exactement.
On titube, on s'endort. Bon, ben ça va.
Ouais.
Et l'auto va être arrêtée.
Puis je vais ajouter un truc, c'est que ce ne sera pas de la quincaillerie de plus parce que c'est de la reconnaissance. C'est essentiellement du travail logiciel,
non,
c'est de l'algorithme.
C'est exactement.
Donc, c'est de la reconnaissance par ordinateur qui va se faire sur un seul processeur. Donc, ça risque d'être une technologie positive qui ne coûtera pas une fortune.
Voilà, parce que les fonctions sont pour la plupart déjà là.
Exact.
Alors, on va les faire travailler en conséquence.
Voilà.
Autre nouvelle intéressante avec Mercedes.
Écoute, Mercedes-Benz intègre un lecteur d'empreintes digitales dans son tableau de bord pour servir d'outil de paiement. Donc, on parle souvent de portefeuille numérique. Bon, la façon de payer sans contact avec son téléphone. Là, va falloir inventer une expression genre portefeuille sur quatre roues. Je ne sais pas comment le dire.
C'est même pas que le téléphone.
C'est carrément
avec
ton auto.
C'est carrément avec ton auto.
C'est probablement le prochain niveau de mobilité électronique, appelons ça comme ça. Évidemment, on passe beaucoup de temps en voiture et les constructeurs pensent qu'il serait intéressant d'installer des outils de magasinage électronique à bord. Il y a un an ou deux, GM avait présenté son Marketplace qui se présentait comme une place, comme une boutique Amazon ou un site web transactionnel sur l'écran du tableau de bord. Mercedes-Benz vient de s'entendre avec Visa, quand même, donc c'est sérieux, pour offrir le paiement automatisé à bord de ses futurs véhicules. Mercedes-Benz va un petit peu plus loin. Elle va permettre aux gens à bord des véhicules de payer en s'identifiant à partir de leur empreinte digitale. Donc, on va probablement un peu comme on le fait sur certains téléphones intelligents.
Ouais.
Il y a un petit scanner, sauf que c'est dans le bouton
reconnaissance
ou à l'écran.
Qui va vous donner le droit d'un paiement. Vous pouvez acheter, je ne sais pas, me commander de la bouffe, réserver une place au théâtre, quelque chose comme ça, puis boum, boum, c'est fait.
Ça va être un gros composant des voitures connectées, parce que les voitures étant connectées à Internet, il y a de l'information qui peut être échangée, puis on peut se commander d'avance, faire livrer à la maison des repas, des choses comme ça. Il y a évidemment, plus concrètement, la possibilité de payer pour faire le plein dans les stations de service qui sont compatibles, n'est-ce pas, sans avoir à sortir son portefeuille, ou de payer pour une recharge à une borne du réseau public, Mercedes ME, qui d'ailleurs va venir ici dans les prochains mois.
On travaille là-dessus, là, au moment où on se parle.
On pourra peut-être aussi imaginer qu'on pourrait payer pour son café au service au volant de la bannière, de l'enseigne de café de votre choix, là, juste en appuyant le pouce sur le tableau de base, ce qui se dit d'une drôle de façon, mais ce qui serait probablement ça qu'il va falloir faire.
Exact.
Mercedes P, c'est le nom de la technologie, est pour le moment offert exclusivement en Europe. On imagine que le service pourrait évidemment migrer ici probablement pas, mais dans les premières semaines, avec la berline électrique EQS qui s'en vient les prochains, ouais, d'un jour à l'autre, en fait. Mais peut-être dans une évolution de cette berline-là pour commencer,
ben,
ou des,
oui,
autres véhicules.
Probablement qu'on va faire des tests pilotes dans certaines grandes villes d'Europe et en, ouais, voyant, exact, comment ça fonctionne, avant d'étendre le service à l'Amérique, on va probablement prendre deux, trois. Ben, on prend généralement Londres, Paris, Rome,
ah, les classiques, les
Barcelone,
exact,
là, bon, puis on regarde de ce côté-là, on voit comment ça fonctionne et souvent aussi. C'est un, excusez le mauvais terme en anglais, c'est un work in progress, c'est-à-dire que,
ouais, c'est évolutif,
en évoluant, on regarde comment ça, mm-hmm, va, on peaufine ça, on raffine le système, puis une fois qu'on a dit OK, la recette est bonne, ouais, boom, là on s'en va du côté de l'Amérique, probablement du côté du Japon aussi, il y a d'autres endroits, mais, ouais, effectivement, c'est un système qui peut rapidement se développer, ben, parce qu'une fois qu'on a la permission, Visa est une compagnie mondiale.
Exact,
alors,
de façon générale, que ce soit Mercedes ou GM ou une autre, je pense que cette notion de commerce en voiture, de magasinage, je sais pas comment, il va falloir trouver une expression, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut s'attendre à voir.
Magasinage en route.
Ouais, c'est ça.
On n'est plus en ligne.
Il y avait ça dans l'avion avant, on pouvait acheter des affaires à bord, là, ça va être dans l'auto.
Bon, voilà. Rapidement, j'en ai deux petites. On a appris que le monsieur Fitzgibbon, notre ministre
de l'économie
et de l'innovation, était faire un petit tour en Californie pour une mission économique. On a rencontré Tesla, c'était le mois passé, en, mm-hmm, octobre. Et là, on a appris, c'est un petit peu plus tôt cette semaine, en fait, c'est le 6 novembre qu'on a appris que Tesla va ouvrir une usine pour produire des équipements de fabrication de batteries à Markham, en Ontario. Et on s'est dit, ah, peut-être qu'au Québec, on est capable
on
de
est
faire quelque
loin.
Chose.
Ben oui.
Alors, on est en train de travailler fort. Bon, évidemment, Québec aimerait ça avoir une place de choix dans la chaîne d'approvisionnement, parce que là, évidemment, Tesla est en pleine. Ça explose de tout bas, de tout côté chez Tesla. Mm-hmm. Et on veut s'entourer de composantes de véhicules électriques. Puis le Québec, évidemment, est un endroit de choix. La bonne nouvelle, c'est qu'on semble intéressé du côté de Tesla. On n'a pas fait de promesse. On sait comment c'est un peu opaque chez Tesla. Les nouvelles circulent, mais il n'y a pas de relations publiques. C'est difficile d'avoir de l'information.
Je vais arriver d'un autre angle, mais je pense que il y a des signes qui pointent vers l'intérêt de Tesla au Québec pour une usine de batterie.
Ouais.
Qui pourrait venir ici et récupérer des composants, notamment des métaux stratégiques. Et
c'est
les
parce qu'on a tout ce qu'il faut au Québec.
On
va le faire de manière propre.
Et M. Fitzgibbon n'est pas le premier représentant du secteur de cette industrie-là au Québec à se présenter devant Tesla. Puis
exact.
Il y a certainement eu des échanges.
Tesla s'est inscrit comme lobbyiste auprès du gouvernement du Québec.
Plus, bon, voilà,
alors, ça, c'est peut-être un indice qui en dit assez long parce qu'on le sait, là, il y a déjà des usines de batteries qui vont s'installer à Bécancour. On a des productions de lithium. On a une compagnie comme Lithion qui récupère déjà des batteries de chez Tesla. On avait eu le président entrevue.
C'est vrai
l'émission.
Que ça ferait une bonne entente de récupérer toutes les vieilles Tesla.
Et notre énergie est propre. Parce que quand on regarde l'empreinte de carbone globale, tout le monde dit, nous autres, on va être carboneutre. Carboneutre, ça veut dire que même l'énergie avec laquelle tu dois produire tes produits doit être propre. Bon, ben, au Québec, on peut aspirer à ça. Alors qu'il y a bien des endroits où c'est impossible. Là. Il y a des États américains où l'électricité est encore au charbon.
Mm-hmm.
Regarde, t'auras beau faire tout ce que tu veux, t'arriveras jamais à être carboneutre.
C'est une grosse partie
ça.
De l'équation. Là,
effectivement. Donc ça va être à surveiller. On va aller à la pause et au retour, on va avoir notre invité Jocelyn Fecteau de chez Kijiji Auto.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Vous le savez, on est de plus en plus dans le numérique. Il y a quelques années encore, magasiner sur Internet, c'était une mission impossible pour beaucoup de gens. Et maintenant, la plupart des gens magasinent. Vous êtes allé sur Amazon probablement au moins une fois dans votre vie, sur Google ou d'autres plateformes.
On dit 98% des gens magasinent leur auto sur Internet avant d'acheter.
Oui, oui.
Mais on ne peut pas encore acheter en ligne.
Pas du neuf. On peut faire de l'occasion, mais on peut pas faire du neuf. Pour aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine qui est fort intéressante. C'est Kijiji Auto que vous connaissez. Là, on connaît Kijiji par ses petites annonces. C'est un des grands sites automobiles qui génère à peu près 50 millions de visites par mois. 6 millions de visiteurs uniques. Pour ceux qui connaissent, là, c'est des gros chiffres.
C'est un gros site web.
Un gros site web. On s'est associé à Cox Automotive. Cox Automotive, c'est un des plus grands regroupements de concessionnaires et de sites. Écoute, là, je ne les nomme même pas parce qu'il y en a trop. Mais il y a DealerTrack, HomeNet, Kelley Blue Book, Mannheim, NextGear, Capital. Il y en a une tonne. Écoute, on dit qu'on Cox est partenaire de plus de 50 000 concessionnaires automobiles dans le monde.
C'est du monde, ça.
C'est du monde. Mm-hmm. Alors, on s'est associé avec Kijiji pour justement une aventure qui est fort intéressante. Et pour nous en parler, on a le directeur des ventes pour l'Est du Canada chez Kijiji Auto, Jocelyn Fecteau. Bonjour, Jocelyn.
Bonjour, Benoît.
Alors, parle-nous un petit peu. On a mis ça en bouche là pour parler un peu bon, de Kijiji et de Cox Automotive. Mais quel genre de partenariat est-ce que les deux compagnies ont signé, là, je pense que ça s'est fait le 8 novembre, là, donc tout récemment?
Ben, je ne pourrais pas vous donner les détails comme tels de l'entente. La chose que je peux vous dire, par exemple, c'est que Kijiji, depuis plusieurs années, met en relation les vendeurs et les acheteurs de différents produits. Kijiji ouais. Auto, comme vous l'avez mentionné, bon, 98% des gens, je pense que c'est un réflexe aujourd'hui, en faisant le magasinage d'une voiture, d'aller sur Internet. Et Kijiji, c'est un des leaders. C'est une référence auquel les acheteurs s'y réfèrent. Donc, Kijiji Auto ont fait une entente avec Cox Automotive, qui est un, comme vous l'avez dit, qui est comme le leader auprès des concessionnaires. Tout ça dans le but de connecter encore plus d'acheteurs avec les vendeurs. Ceci étant dit, Cox Automotive est un fournisseur pour les concessionnaires. Donc, pour qu'est-ce que ça représente pour l'acheteur? Ça veut dire que en visitant Kijiji Auto, en repérant les voitures qui sont affichées, magasinées plus vite, ils vont avoir accès exactement ou quasiment comme s'ils étaient en transaction au concessionnaire. L'information qui va...
Pas mal toute la chaîne, on peut magasiner, on peut se faire financer, on peut faire pas mal toute la chaîne en ligne. Je pense qu'on a juste à aller se faire livrer le véhicule, c'est ça?
La livraison à domicile n'est pas encore
ouais, possible. Oui, ben, ça va chez le concessionnaire, si j'ai bien compris.
À moi, exactement. Mm-hmm. Sauf que qu'est-ce que ça représente pour l'acheteur, le consommateur, via Kijiji Auto, va pouvoir faire sa recherche comme habituellement, trouver sa voiture, même faire une demande de financement en ligne, et être approuvé en ligne.
OK, donc, autrement dit, Jocelyn Fecteau, toutes les étapes qu'on fait habituellement avec un vendeur chez un concessionnaire qui va voir son directeur des ventes, qui va voir les différentes étapes, on va pouvoir, avec cette association-là, faire tout ça en ligne, si je comprends bien. Là.
Oui, tout ça va être fait en ligne. Puis, juste pour revenir sur le lien, l'association que Kijiji a faite avec Cox, ça représente que, pour encore une fois rendre la transaction le plus conviviale et la plus transparente, quand le consommateur va procéder à sa demande de financement, donc associé à un véhicule, ceci va s'en aller directement dans le système du concessionnaire appartenant à la voiture, avec toutes les informations, avec la mention très probablement qui va être mentionnée « approuvé ». Okay. Donc, la seule étape qui reste pour le consommateur, c'est de prendre contact. Et je suis persuadé que le concessionnaire va également prendre contact avec cet acheteur-là.
Oh, généralement, sont assez rapides sont pour assez ça. Oui.
Exactement. Mais l'autre chose de ce temps-ci, toutes les occasions qui sont en ligne, les bonnes occasions disparaissent, peu importe le temps de l'année, disparaissent quand même assez rapidement. Donc, ça permet au consommateur de sécuriser une transaction approuvée auprès d'un concessionnaire. Puis le concessionnaire, lui, au lieu de repasser à travers toutes les étapes de demande de financement, d'informations personnelles, tout ça via l'entente qu'il y a eu avec Cox Automotive est poussé directement dans chez le concessionnaire avec l'information. Donc, la chose qui va rester à faire, c'est de céduler un rendez-vous pour tout simplement prendre la possession du véhicule. Et il y a aussi possibilité d'avoir une estimation de sa valeur d'échange en ligne au même moment qu'on procède à la transaction.
OK. Autrement dit, si j'ai bien compris, tout ce qu'on a parlé, tout ce que tu as souligné, Jocelyn, existe déjà. C'est simplement que la façon de faire avec Cox et Kijiji va être simplifiée alors que toutes les étapes vont déjà être établies. Et le consommateur, finalement, une fois que tout ça est fait, a simplement à aller ramasser l'auto.
Exactement. Mais dans le fond, c'est quand même assez transparent. Le site de Kijiji Auto est très convivial. Les gens vont être capables de repérer les. En plus, on peut filtrer par magasinage. Vous allez voir l'icône, la nouvelle icône, magasiner plus vite.
Mm-hmm.
Donc, les voitures auxquelles qui sont possibles de faire une demande de financement en ligne, ça va être facilement. Vous pouvez filtrer dans votre recherche pour retrouver les véhicules auxquels que vous pouvez exécuter ça tout simplement sur la plateforme de Kijiji Auto. Et oui, l'information est directement transmise aux concessionnaires via leur système d'usage, leur système d'opération interne. Ça, c'est quand même assez... Le but de ça, c'est quand même... vous avez mentionné en début que les gens vont sur Internet pour s'informer. Je pense que les gens, selon une étude, plus des deux tiers des 18-34 ont mentionné qu'ils étaient prêts à faire une transaction de cette façon-là, c'est-à-dire en ligne pour une voiture. Et puis, c'est plus de la moitié des 35-54 qui sont prêts à le faire. Là, on parle de quand même une vaste majorité de puis, consommateurs canadiens qui sont prêts à exécuter ça.
On le sait, là, chez les 18-34, la façon de magasiner, c'est déjà via l'Internet.
Ben,
même
les plus vieux.
Même les plus vieux. Moi, je suis un dinosaure et j'utilise à l'occasion des achats en ligne. Puis bon, c'est vrai que c'est d'une simplicité, c'est rendu maintenant tellement facile. Donc, on va pouvoir procéder de la même façon. Ce système-là ou cette association-là va arriver à terme quand exactement, Jocelyn? Quand est-ce que ça va pouvoir être appliqué? Est-ce qu'on est déjà là ou est-ce que ça se prépare puis il y a une date qu'on va pouvoir commencer à utiliser ça?
Ben, c'est une excellente question. Présentement, il y a certains concessionnaires canadiens auxquels on a mis l'interrupteur à on, si on peut dire.
On a allumé la lumière.
Exactement, qu'on a fait ça. D'une façon, Kijiji étant l'arrière-scène de Kijiji Auto, on a des gens hautement qualifiés du côté technologique. On veut s'assurer que l'expérience d'achat, la nouvelle expérience d'achat pour le consommateur soit vraiment sans aucune faille. Donc, là, présentement, c'est disponible, mais à partir de la mi-novembre, ça va être disponible pour la majorité, sinon pas la totalité, des concessionnaires qui sont chez nous, chez Kijiji Auto. Ils vont être capables d'offrir ou d'ajouter un volet à leur processus de vente et pour le client de leur processus d'achat via Kijiji Auto. Ils vont être en mesure de compléter leur transaction du confort de leur foyer. 24 heures sur ça. Puis, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est vraiment de donner le maximum d'informations. Kijiji était vraiment déjà bien outillé et donnait beaucoup d'informations pour faire le magasinage de voitures en ligne, mais il manquait cette petite étape-là. Puis, je pourrais te dire que, Benoît, tu mentionnais que tu étais un dinosaure, mais je pense que beaucoup de gens... dans la dernière année, pour qu'est-ce qui est du magasinage en ligne, plusieurs entreprises ont rendu plus en plus facile.
Je vais être honnête, là, la pandémie m'a un peu forcé à magasiner en ligne parce que c'était souvent le seul choix qu'on avait. Puis on y va un peu à reculons au début en pensant que c'est compliqué, puis on réalise finalement qu'après quelques clics, c'est pas si compliqué que ça. Là.
Moi, j'ai une question, Jocelyn. Cette entente sur Kijiji, du côté de Kijiji, est-ce que ça va aussi s'appliquer au niveau des outils là, de financement et tout ça sur l'achat de véhicules qui sont peut-être mis en vente par des particuliers ou c'est strictement avec les concessionnaires?
Pour l'instant, c'est avec les concessionnaires. Puis Kijiji Auto, je pense qu'on voulait, en plus de ça, donner un outil additionnel au réseau concessionnaire, justement pour offrir ça. Le but de Kijiji, c'est loin de remplacer les concessionnaires, mais c'est d'être capable d'offrir des deux côtés, soit une meilleure expérience d'achat ou une meilleure expérience de vente, mais surtout d'offrir le plus de temps d'antenne, si je peux dire, le plus de possibilités de pouvoir le faire. Donc, dans le confort de son foyer, avec des horaires atypiques, le télétravail, peu importe, on va être capable de vraiment sécuriser l'appel qui nous attend chez un de nos concessionnaires au Canada.
Il y a toujours la question de l'inspection. Est-ce que c'est intégré dans dans toute la machine ou est-ce que ça arrive une fois qu'on a fait le processus et qu'on va chez le concessionnaire, là, on peut voir la voiture en personne?
Nous, qu'est-ce qu'on s'engage? C'est vraiment d'être capable de sécuriser la transaction, donc approuver une transaction. Et comme on mentionnait tantôt, le concessionnaire va sûrement rapidement prendre contact avec le client. Mm-hmm. Des deux côtés, la question est excellente, mais des deux côtés, je pense qu'il y a comme une vérification à faire, autant de l'acheteur de la nouvelle voiture à acquérir, et si dans le cas qu'il y aurait un véhicule d'échange, bien, le concessionnaire aussi de vérifier que la transaction soit bel et bien gagnante pour les deux parties.
Ben encore, un grand merci, Jocelyn Fecteau, pour les explications. Puis, on va aller essayer ça. On pourra en reparler quand on aura l'information, voir un peu la façon dont ça fonctionne. Alors, c'était Jocelyn Fecteau, qui est directeur des ventes pour l'Est du Canada chez Kijiji Auto, qui nous parlait d'une nouvelle association entre Cox Automotive et Kijiji Auto. Merci, Jocelyn. À bientôt.
Merci à vous deux.
Bye-bye.
Nous, on va à la pause et au retour, c'est nos essais routiers.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
On dit toujours que ça passe vite quand on s'amuse.
Ah oui.
Alors, c'est déjà le dernier bloc, Alain. Avant de parler de nos essais routiers, je voulais d'abord rappeler aux gens qu'on peut écouter le balado « Ça tient la route » sur toutes les plateformes qu'on connaît, Google, Spotify et compagnie. On peut aller sur la plateforme C23, sur le site du 98.5 FM à Montréal. Vous allez dans la section « Balado ». Et vous allez voir, on a les balados, la poche bleue, Paul Arcand, Patrick Lagacé.
J'ai compté les alertes l'autre jour sur Facebook. Donc, la page Facebook de votre radio
Il y en a.
Ils nous tiennent informés.
Ben c'est correct, mais ça fonctionne bien. Donc, on peut aller là pour l'écouter. Puis évidemment, le dimanche soir, 19h, on est en onde au 98.5. On est un petit peu partout dans le réseau Cogeco là, durant le week-end. Donc, on peut écouter le balado aussi à la radio. Tiens, avant aussi, on a notre chronique Écolo-Auto de la semaine. On va parler cette semaine. Il y a un article fort intéressant qui est sorti il y a quelques semaines sur Écolo-Auto qui parlait des 10 véhicules électriques les plus attendus de 2022. Parce qu'on le sait, là, des fois, on en perd un peu. Bon, ça arrive cette année.
On n'arrête pas de les attendre. Fois, c'est long.
Bon, ça, c'est l'autre affaire. On les attend un peu beaucoup.
Ouais.
Mais dans ceux qu'on a officiellement annoncés, bon, on avait mis dans la liste le MX-30. Il est arrivé.
Ah, enfin, on l'a.
Je l'ai roulé. Pas gros, parce que
je l'ai cet hiver, je vais l'essayer en conditions
plus difficiles.
Ah oui,
tu vas l'avoir cet hiver.
Ça va être le fun de voir.
Vraiment de la proximité. Hein?
Oui,
on
ne
peut pas
aller
trop loin.
Pas à Québec.
Non, mais lui, il n'est pas attendu, il est arrivé. Ça commence à 42 000. Le modèle de GT que j'avais était à 47 000. On attend aussi en début d'année le Toyota BZ4X. Regarde trois fois.
Ça, c'en est un qui est annoncé il n'y a
et
pas longtemps.
Et le Subaru Solterra, qui est son équivalent du côté de Subaru, qui s'en vient.
Ben
évidemment,
oui.
Le Ford Lightning, le F-150, qui est un aussi des modèles qu'on attend. On s'en va essayer le IONIQ 5 au mois de décembre à San Diego. C'est officiel. On a eu nos dates. Donc, on va aller. Ça, j'ai hâte d'essayer.
Il commence à l'annoncer. On a
ça, j'ai
voir.
Hâte d'essayer
ben oui.
ça. Et son équivalent, le Kia EV6, qui est la même plateforme, les mêmes batteries, mais la robe est différente.
Ouais.
Donc, c'est l'habillage. Le iX 2022 BMW,
ouais.
Qui est sorti en Europe, qu'on attend ici quelque part à peu près au début de l'année dans ces eaux-là. Le i4 aussi, pour rester chez BMW, qui est un autre modèle qui s'en vient. Le Ariya, qu'on a remis.
Et on en parle depuis longtemps, lui aussi. Ben oui.
Moi, j'ai vu cette auto-là au Salon de l'auto de Tokyo en 2019.
C'est vrai.
Avant la pandémie, et on est rendu 2 ans plus tard. Officiellement, c'est un 2023 qui va arriver au cours de l'année 2022. Alors, ça aussi, c'est supposé arriver. On va également avoir le Lyriq chez Cadillac, qu'on attend au début de l'année. Donc ça, c'est parmi là, les modèles qui s'en viennent, qui ne sont pas tous grand public, il faut être honnête. Là.
Ouais, Cadillac, ça ne sera pas donné.
Cadillac, ça ne sera pas donné. On a annoncé, bon, 42 000 prix de base pour le MX-30, 44 999 pour la IONIQ 5. Mais ça, j'ai hâte de voir parce que j'ai bien aimé. Il y en avait une au Salon de l'auto électrique à Montréal. On a pu prendre place à bord. sans aller nulle part, mais j'ai bien aimé l'environnement dans le véhicule. J'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, si vous voulez plus de détails, l'article, c'est sur ecoloauto.com. Alors, vous allez faire un petit tour. Quand l'émission sera mise, le balado sera mis en ligne sur le site annuelauto.ca. Je fais toujours une référence à l'article pour que les gens aillent faire un petit tour. Donc, de cette façon-là, on s'y retrouve. Alors voilà, là, on est rendu à nos essais routiers. De temps en temps, on fait beaucoup d'électrique. On va aller au gaz cette semaine.
Moins écolo, plus auto.
Voilà, exactement. Mais tu as essayé, en fait, probablement la dernière Honda Civic type R de la génération actuelle qui va être disponible pour les journalistes.
Exact. La type R, je vais dire 2021, parce que je ne suis pas sûr qu'elle est millésimée 2022.
Je ne suis pas certain non plus.
De toute façon...
Je pense pas, parce que c'est un nouveau modèle de Civic en 2022, dont techniquement, la dernière R est en 21.
Oui, ben c'est ça, on a vu la Civic 2022, et il y a aussi une Civic SI qui s'en vient en 2022.
Ouais.
Une version prototype de la type R est présentement sur la piste. Je pense qu'elle a été repérée au Nürburgring, en Allemagne.
En fait, il y a bien du trafic au Nürburgring de Stade.
c'est une autoroute.
Tout le monde est là.
À l'heure de pointe, plus qu'une piste de course. En tout cas, je vous le dis tout de suite, la type R 2023 ne sera pas une sport compacte parce que quand on regarde la Civic 2022, c'est pratiquement aussi gros qu'elle était l'Honda Accord il y a 10 ans.
Je dirais il y a 6 ans. Non, c'est vraiment là. En fait, selon les volumes de l'EPA aux États-Unis, on est dans des volumes d'une voiture intermédiaire.
Voilà, exactement. Entre-temps, ceux qui veulent savoir à quoi ressemble une type R peuvent espérer en croiser une sur la route édition 2021 ou avant. Cette version très exclusive de la Civic est effectivement vendue au Canada au prix modique de 46 200 $, ce qui est un prix de fou pour une Civic quand on y pense, mais... et d'ailleurs, je suis d'accord un peu avec ça. Mais en même temps, Honda Canada indique que toutes les Civic type R ont déjà été mises en vente au Canada ont déjà trouvé preneur. Donc, c'est tout vendu. Pour ceux qui aiment les Civic,
donc il y a des maniaques et la beauté de la chose, c'est que c'est une voiture de puriste.
C'est dire à quel point la Civic a toujours eu une bonne réputation et sa tralée d'adeptes.
Et nous, quand le lancement avait été fait, on avait été à tremblant sur la piste.
Ouais.
Et honnêtement, là, on lui avait tiré les verres du nez. Là. On l'avait roulé pour le vrai et pour une traction. C'est surprenant comment ça tient la route. Parce que c'est pas une intégrale. Toute la puissance, les 306 chevaux sont aux roues avant.
C'est une expérience de conduite.
C'est quelque chose.
Juste prendre place à bord. Premièrement, volant micro-suède très, très ferme, avec une direction très rigide, qui rappelle quasiment le bon vieux power bra qu'on disait quand j'étais plus jeune.
Absolument.
Levier de boîte de rapport en acier brossé à 6 rapports. L'accueil est assez intéressant. Les baquets, évidemment, aussi en micro-suède rouge et noir, ils ont quand même un certain style, sont très moulants. Risque de ne pas convenir à tout le monde, mais si vous avez une physionomie adéquate, comme ça, vous serez assis très confortablement derrière le volant.
Je ne suis pas petit et je n'ai pas eu de problème.
Voilà.
Je fais quand même 240 livres, on va être honnête. Je suis rendu à 230, j'en ai perdu un petit peu quand même. Mais je ne suis pas menu, là. Alors, j'ai pas eu de problème parce qu'il y en a effectivement. J'ai essayé des BMW ou des.
Il y a des Subaru.
D'autres japonaises, des Subaru.
Il faut
vraiment pas être trop gros.
Voilà. Hein? Fait beaucoup de confort pour le conducteur. Les autres passagers, c'est moins sûr. Inutile de dire que la Type R est une voiture qui se conduit point, en fait. Il faut le dire carrément comme ça.
Oh, oui.
Donc, les autres à bord, et il y a seulement 3 places, on risque d'être un petit peu plus embêtés. On trouve, c'est intéressant quand même, on trouve un sélecteur de mode de conduite qui permet de choisir entre le mode R+, disons-le, le mode de course, mode sport et mode confort. Mais on voit mal comment on peut se parler du mode confort à bord de cette voiture-là, parce qu'il n'y en a à peu près pas.
Pour
faire avec,
si
c'est une voiture sportive,
voilà,
donc c'est normal.
Ça fait partie du plaisir de la chose.
Exact.
Mais c'est quand même pas inconfortable.
Ben, je veux dire ceci.
C'est ferme.
C'est aussi pratique, en fait. Deux négatifs font un positif. Le coffre de la Civic est étonnamment logeable et la banquette peut se rabattre, ce qui en fait une voiture compacte utile. Ce qui est moins utile, c'est le système multimédia qui remonte vraiment à une autre époque, j'allais dire jusqu'à 97, quand la type R a vu le jour, là, vraiment. Les petites touches de commande, les icônes miniatures à l'écran, tout ça fait qu'on n'a à peu près jamais le doigt à la bonne place au bon moment. Surtout qu'en plus, à bord d'une type R, ça brasse, ça ballotte, ça secoue, dites-le comme vous voulez. Les modes de conduite plus sportifs ajoutent en prime un grondement très sonore du côté de l'échappement qui lui est plutôt grisant, en fait, il faut le dire. Sous le capot, là, on trouve un 4 cylindres turbo de 2 litres qui prend plus réellement vie au-delà des 3500 tours minute et qui tire donc profit d'une boîte manuelle à 6 rapports que j'ai trouvé très bien étagée, qu'on prend plaisir à manipuler. Pour ceux que ça intéresse, la type R ajuste le régime moteur elle-même quand on souhaite rétrograder. Ce qu'on appelle en anglais le rev matching. Je ne sais pas s'il y a un équivalent français de cette expression-là. Je ne l'ai pas. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé.
Non.
C'est une fonction qu'on va d'ailleurs retrouver à bord de la Civic 2022. Donc, prenez des notes, ceux qui s'intéressent. Ce mode-là évite de se piler sur le pied en effectuant un talon-orteil, le fameux heel and toe. Talon-orteil maladroit quand on n'a pas nécessairement les bonnes chaussures pour le faire. Donc, on ne veut pas avoir à faire ça n'importe quand. D'ailleurs, si vous avez à faire ce genre de choses-là, là, un talon-orteil, alors que vous conduisez une Civic type R sur la route, c'est signe que vous conduisez beaucoup trop vite et beaucoup trop dangereusement pour les conditions routières.
Ouais.
Gardez ça pour les circuits fermés, il faut le préciser, parce qu'une voiture qui est capable de déménager.
Ah oui, absolument.
Il faut demeurer prudent. La Type R a une puissance de 306 chevaux et un couple de 295 livres-pieds à gérer, évidemment, par le conducteur. Et en virage, ou peu importe, on ne veut pas perdre le contrôle de cette machine en ratant un changement de vitesse, ou peu importe.
Comment. Exact. J'ai bien hâte de voir, moi, comment on va approcher la prochaine Type R, parce qu'on a été beaucoup plus sobre dans le dessin de la nouvelle Civic.
Ouais.
Est-ce qu'on va être... on va avoir la même approche pour la Type R? Parce qu'on le sait, là, la Type R... Pour les yeux, c'est pas pour tout le monde. Là. C'est assez tarabiscoté.
Il faut dire qu'elle est reposée sur une Civic qui était aussi assez
alambiquée,
point de vue design, disons-le comme ça, pour utiliser des beaux mots. Mais le nouveau modèle est plus...
Ben, il est plus sobre.
Il est beaucoup plus sobre,
beaucoup plus épuré, il y a moins d'artifices. Donc, ouais. Est-ce qu'on va emprunter la même ligne pour faire la prochaine Type R?
Il y a des esquisses, il y a un aileron surélevé, il n'y a pas ce qui joue avec les... C'est des grosses roues, c'est des roues de 20 pouces sur une Type R, c'est gros, tu sais, ça affecte aussi le comportement, mais ça a de la gueule. J'ai hâte de voir, c'est vraiment une voiture unique en son genre, la Type R, il faut le dire, là. Difficile d'ailleurs de la comparer à quoi que ce soit, même si Hyundai aimerait probablement que je glisse ici un mot à propos de la Veloster N.
Ouais, il y aurait ça, puis il y aurait probablement la R.
J'allais dire la Golf R. Je pense qu'on passe à la même voiture, effectivement, qui a son propre attrait et sa propre personnalité, n'est-ce pas?
Exact.
Mais en tout cas, on a hâte de voir justement comment la Type R 2023 va pouvoir améliorer le comportement de cette voiture-là, parce que c'est quand même une voiture qui est agréable à conduire.
Ouais, absolument.
Et avec la Golf R, la STI, il y a des voitures comme ça qui sont intéressantes et qui sont probablement à leur dernière génération ou presque. Ça va s'électrifier avant longtemps.
Ça va s'électrifier très rapidement. Mm-hmm. Moi, j'étais dans une nouveauté qui n'est ni hybride, en fait, il va en avoir une l'année prochaine, ni électrique, qui remplace... Ben, écoute, c'est la Matrix moderne. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, la Corolla Cross, qui est, en fait, dans la famille des Corolla. C'est beaucoup plus gros qu'une Matrix.
Ça fait-tu disparaître comme le CHR ou c'est
bon,
l'espèce
écoute,
de...
Toyota nous ont dit que non, mais je suis prêt à mettre un petit 2 sur la table ici que le CHR vit ses derniers moments. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le CHR avait été lancé chez Sion. C'était pas un produit Toyota au départ, c'était un produit Sion, et Toyota a décidé de tuer Sion littéralement au moment de sortir le CHR. Fait que là, on s'est dit, ben voyons donc, il est prêt. Alors, on l'a appelé Toyota. Mais il y a quelque chose d'un petit peu dichotomique dans ce modèle-là par rapport à ce qu'on connaît de Toyota.
Mm-hmm.
Et là, on s'est dit, puis en plus, ce n'est qu'une traction. Il n'y a pas de 4 roues motrices de disponible dans le CHR. Là, ce qu'on a amené, c'est quelque chose qui a l'air pas mal d'un RAV4. Si on regarde le format, là, on est à peu près dans la même longueur. Mais on a gardé des espèces de traits de familial pour faire un rappel un peu avec ce qu'était la Matrix. Mais c'est pas mal plus gros. Le moteur, c'est un moteur 2 litres de 169 chevaux. On s'est pas cassé les pieds. On était dans la boîte à outils de Toyota. On a mis ça en dessous. Et la seule transmission est une CVT. Alors, il faut le savoir. Bon, je ne suis pas un amateur de CVT. Par contre, connaissant la fonction du véhicule, il n'y a aucune espèce d'appréhension sportive dans ce véhicule-là. C'est un véhicule qui va vous amener du point A au point B. L'espace est bon. On a jusqu'à 750 litres d'espace cargo derrière. Il va y avoir dans les modèles de base, donc qui sont les modèles L et LE, des tractions. Et pour 1 400 $ de plus, vous avez le rouage intégral. Et si vous allez dans les versions LE Premium et XLE, là, c'est d'office des modèles 4 roues motrices. Et on commence 24 890 $
C'est
le modèle L de base, 2 roues motrices. Mais quand même, vous avez plusieurs éléments de sécurité. Vous n'êtes pas dans une voiture qui n'a rien dedans. Là. Vous avez quand même une voiture qui va très bien faire le travail. Évidemment, là, si vous en ajoutez, le XLE, lui, commence à 34 000 $ vous en avez pas mal pour votre argent. Système de son JBL à 9 haut-parleurs, un écran multifonction qui est devant le conducteur de 7 pouces au lieu de 4,2 pouces. L'écran tactile central est à 8 pouces au lieu de 7 pouces. Donc, évidemment, on en rajoute pour le consommateur. C'est assez lourd, 1470 kilos pour un véhicule qui n'est pas si gros que ça, 1508 kilos pour le modèle XLE qu'on avait. Donc, ça veut dire que le moteur 2 litres travaille assez fort.
C'est pas une bombe, nécessairement.
Non. En fait, j'ai même trouvé ça assez triste à conduire. Une CVT, au départ, on castre tout ce qui s'appelle performance.
Ben, c'est un peu l'héritage de la Corolla, sans être méchant.
C'est l'héritage de la Corolla. On nous a annoncé que dès 2023, donc parce que c'est un 2022, le modèle qu'on a roulé, dès 2023, il va y avoir un hybride. Est-ce qu'on va prendre l'hybride qui est déjà dans le Corolla? Les chances sont assez bonnes parce que le système est déjà là. On le prend dans la marche de temps. Merci. Voilà, mais... point de vue consommation, je voulais toucher un point parce qu'on annonce du 7,3 litres au 100 pour le moteur, le 2 roues motrices, et 7,8 pour le 4 roues motrices. Moi, j'ai fait du 9,4 avec le 4 roues motrices et je ne me suis pas énervé. On est resté sur l'autoroute. Ensuite de ça, on a fait un petit peu de route parce qu'on était dans le bout de Gatineau. On était au casino du lac Lémy.
Oui, ben oui.
Puis on a été se promener Notre-Dame-de-la-Salette, Notre-Dame-des-Monts, là, derrière, dans l'Outaouais. C'est magnifique, d'ailleurs. C'est des petites routes. Donc, je roulais 80.
Rien d'excitant, et quand même. Ouais.
Et j'ai quand même consommé. Bon, est-ce que c'est parce qu'il est flambant neuf? Peut-être, mais...
est-ce qu'un deux roues motrices avec des bons pneus ferait l'affaire?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Honnêtement, sauf que le fait d'offrir quatre roues motrices... ça va parler à beaucoup de gens.
Oui, une clientèle
parce
pour ça,
c'est certain. On reproche à des modèles comme le CHR, pour le nommer, qui n'a pas de version 4 roues motrices. Là, on aura le choix. Donc, les gens qui veulent le 2 roues motrices, il est là. Je pense que physiquement, le véhicule fait un joli clin d'œil à ce qu'était la Matrix. Et je pense que ça va se vendre à pleine porte.
C'est un beau format, en tout cas.
C'est un beau format. Mm-hmm. On peut embarquer la famille. Il y a de la place en masse derrière. Et il y a suffisamment d'équipements de sécurité d'équipement de base pour faire le travail en masse.
Puis sérieux, on va se le dire, combien il y a de véhicules qui, de base, même si c'est juste de base, coûtent moins de 25 000
$? Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a plus.
Le prix moyen d'un véhicule au Canada, on est au-dessus de 40 000 en ce moment. Fait qu'à 25 000, là, ça va parler à beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est un véhicule qui est très intéressant. Hey, j'ai pas eu le temps de raconter mon anecdote du MX-30. En fait, m'a faire ça vite, je suis allé à Valleyfield de Saint-Lambert, qui est 67 km. Ça m'a pris 100 km au compteur, selon ce que j'ai fait. Il a fallu que je recharge avant de revenir à la maison pour faire un trajet total aller-retour de 120 km. Ça n'en dit long sur le véhicule. La semaine prochaine, je suis avec un Bronco cette semaine, le nouveau. On va essayer ça. Et on va aussi essayer les nouvelles Volkswagen GTI et R cette semaine, les 2022. On en parle la semaine prochaine. Merci à Jean-Christophe Ouellet. Bonne semaine à tous. Merci Alain.
Bye-bye.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C23.